18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis auditeurs, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans l'Hexagone et au-delà. Vous êtes les bienvenus. On démarre une toute nouvelle semaine avec Les Informés, 18h, 19h30. Et vous le savez, c'est chez vous. Les Informés, c'est votre émission où on commente, on analyse et on décrypte l'actualité. C'est ici que ça se passe. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Alors au sommaire, au menu de cette émission, direction le Qatar où les audiences cartonnent pour l'équipe de France et les autres matchs d'ailleurs. Nous allons rejoindre les jeunes des quartiers populaires, les Ulysses de Sarcelles avec Sportavi dans une poignée de secondes. Mais également nous serons avec Benjamin Stora et le changement, vous savez quoi ? Eh bien, nous irons direction de la ville de Gonesse, où il se passe des choses, justement. Ensuite, après 18h20, c'est Nicolas Vidal, notre grande gueule, qui lui-même, avec son média, viendra décrypter, ici même, l'actualité. 18h30, c'est Maître Franck Serfati, comme chaque lundi, qui viendra, avec son regard de juridique, de droit, nous livrer le 49-3. Pour qu'on l'utilise tant. Ensuite, le face-à-face avec les débatteurs influenceurs qui viendront confronter leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Quel programme, les amis ! Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, ça fait plaisir. Merci infiniment de nous suivre. À la réalisation, comme chaque soir, eh ben, c'est Anthony et il vous attend au standard tout à l'heure au 01 53 48 3000. Ça y est, Anthony, hein, les manettes, c'est bon, hein.
Ah bah là, j'ai compris comment ça marche.
Bon, tant mieux Anthony. Welcome. C'est parti les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Direction le Qatar.
Les Informés, la Minute Coupe du Monde, avec Sportavi.
Et Sportavi, nous sommes avec Samira Djouadi et son énergie. Bonsoir ma chère Samira.
Bonsoir Adil.
Comment ça va, vous allez bien?
Super.
Bon,
super.
Vous m'avez l'air calme. Où est passé votre enthousiasme qu'on connaît, légendaire d'ailleurs?
La journée a été sportive là.
Vous êtes déjà fatiguée. Alors, ma chère Samira, comment s'est déroulé ce week-end?
Super, super. On a vécu un match extraordinaire où on a pris peur au départ, vraiment. On s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça a été un match incroyable, beaucoup de bonheur, beaucoup, beaucoup de Français sur ce deuxième match.
Oui.
Incroyable. Donc, vraiment...
Alors, vous allez me confirmer une chose, paraît-il, que vous savez, les tenues traditionnelles qui sont portées par les Émiriens, par les Qataris, eh bien, vous savez, des tenues à l'effigie de la France, des tenues à l'effigie du Brésil, mais également aussi de l'Argentine et d'autres encore, eh bien, en tête de cette tenue traditionnelle, vous savez qui se trouve en tête de cette tenue? La France. Il paraît que c'est la plus vendue.
Ça m'étonne pas, parce que... D'ailleurs, nous on le voit quand on est dans le métro et les jours de match encore plus, parce que de notre hôtel jusqu'au stade, c'est des champs dans le métro et tout, et on est hyper accompagné par les gens qui adorent la France en fait.
Ouais, hein, il paraît que les Qataris kiffent grave la France.
Ah mais grave, la France et le Maroc. Hein.
Et le Maroc aussi, d'accord. Bon, alors deux pays qu'ils aiment. Bon, eh bien tant mieux. Exactement. Ma chère Samira Djouadi avec Sportavi, nous sommes toujours avec les jeunes des quartiers Les Ulysses et nous sommes avec Wafi ce soir. Wafi qui a 11 ans.
Exactement, eh bien je lui passe la parole. Allez Wafi, bonjour.
Bonjour Wafi, tu as 11 ans et tu es au quel collège?
Collège Pierre-Brossolette à Bondy.
À Bondy. Bienvenue et tu participes pour l'association Sportavi. Alors Wafi, dis-nous tout. Aujourd'hui, comment tu as vécu ta journée et ce week-end et notamment la victoire de l'équipe de France qui évidemment fait de... D'ailleurs, elle cartonne dans les audiences. Hein. On a vu sur TF1, c'est de véritables cartons. Comment tu vis tout ça, Wafi?
Franchement, c'est bien. Et aujourd'hui... On est parti à Veolia, ils nous ont fait une démonstration de faucons. Ils nous ont montré comment les élever, les dresser, comment en prendre soin d'eux, comment ils chassent aussi. Et aussi, ils nous ont montré la filtration de l'eau. Ils nous ont montré le nombre de bactéries qu'il y avait dans les eaux usées et comment on passe de l'eau usée à l'eau potable. Mmh. Et ils nous ont montré aussi les récoltes de déchets qu'ils font aussi.
Ouais, fille, ça voilà. C'est très intéressant parce que ça participe évidemment à l'écologie, non ? Tu es sensible à ça ?
Oui.
Oui. Tu sais qu'au Moyen-Orient, les faucons, c'est une tradition hein, depuis des lustres. Hein. On vous l'a dit, oui. Certainement.
Oui, c'est l'animal typique aussi au Qatar.
Alors, est-ce que tu as pu toucher le faucon et est-ce que tu as pu le faire voler ?
Ouais, on a pu prendre des photos avec, le toucher, le caresser, faire plein de choses avec.
Il a été gentil, le faucon, avec toi ?
Oui, franchement, oui.
Quand on le porte, il paraît, Wafi, qu'on ferme les yeux pour éviter, évidemment, que le faucon s'agite dans tous les sens.
Oui, ils ont une sorte de cache qui prennent toute leur tête pour... Ouais. Ça les aide à se reposer et que pas voir, par exemple, s'ils voient un pigeon voler dans les airs, et bah, eux, s'ils n'ont pas le masque, ils vont direct aller l'attaquer.
La chasse.
Et du coup, ils mettent ce masque pour les reposer et pour pas qu'ils voient tous les oiseaux voler.
Wafi, qu'est-ce que tu as retenu de l'écologie, justement de l'eau qui est transformée en permanence ? Comment tu le lis ? Quelle grille de lecture tu as, toi ? Comment tu le comprends ?
Il faut déjà en prendre. Enfin, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait.
Ouais.
Les lingettes aussi. Il ne faut pas les jeter dans les toilettes, il faut les jeter dans la poubelle.
Ouais.
Et plein de choses comme ça. Les déchets, il ne faut pas les jeter n'importe où. Et voilà.
Wafi, l'équipe de France est bien partie, évidemment, pour dominer.
Bah, ouais,
alors, comment tu as vécu ce match de ce week-end ?
Bah franchement, au début, j'étais hyper stressée. Ils ont marqué un but, j'étais un tout petit peu moins stressée. Ils ont égalisé, j'avais eu peur. Après, ils ont remarqué un but vers les 5 dernières minutes. Et j'étais beaucoup moins stressée. Ils ont réussi à tenir et on était contents. Enfin, c'était le match qu'on redoutait le plus.
Bon, ça va, tu vis de belles choses au Qatar, à Doha, Wafi ?
Et oui, j'avais oublié, on avait... À la fin du match, on a aussi rencontré le père Mbappé. On a pris plein de photos avec.
Waouh ! Quelle chance ! Le père Mbappé, vous l'avez rencontré ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce que vous avez échangé ?
Bah, il nous a dit de profiter de notre voyage, qu'on avait beaucoup de chance d'être là.
Il a raison.
Et plein de choses comme ça.
Eh bah, ben, Wafi, profites-en bien. Bon match. Et évidemment, on sait que vous soutenez l'équipe de France. Et profitez bien de ce séjour durant la Coupe du Monde. Merci, Wafi.
Merci à vous.
Merci, Samira est à tes côtés. Je vois que Wafi est très à l'aise avec les sujets. Hein.
Bah, faut croire. Bah. Non, mais franchement, c'est ça qui est énorme dans ce projet. C'est qu'on a des gamins qui ont 11 ans comme Wafi, les plus grands ont 16, 17 ans, et tous sont passionnés par tout ce qu'on leur apporte. Et là, bah, ils parlaient de notre journée chez Veolia. Mmh. D'ailleurs, je le disais aux collaborateurs de Veolia aujourd'hui, que ces gamins, ils sont passés de la 5e à la terminale directe.
Ouais.
Sans souci, parce que ce que vous leur avez expliqué avec une telle énergie, eh ben, ils l'ont entendu, compris et emmagasiné. Et ça, c'est un apprentissage qui n'a pas de prix, quoi.
Qui n'a pas de prix.
Et voilà.
Et
de dire qu'on a réussi à apprendre ça pendant la Coupe du Monde, c'est énorme.
Et on continue de vous faire vivre quotidiennement dans les informés, tous les soirs à 18h, vous le savez, avec Sportavi en direct dans les informés depuis Doha au Qatar. Samira Djouadi, demain, avec quel jeune, évidemment, on va se retrouver en direct à 18h ?
Eh ben, on sera avec le petit Matteo.
Matteo.
Et du coup, voilà, va vous parler de la mangrove, un lieu extraordinaire à Doha.
Et bah,
aussi
demain.
De notre journée de demain.
Et bah, demain, voilà. Avec autant de plaisir, Samira.
Merci beaucoup, Adil. Merci à toi.
On vous salue, on vous embrasse, évidemment.
Merci.
Samira, Djouadi et tous ces jeunes de Bondy, de Sarcelles, mais également des Ulysses qui sont avec nous tous les soirs et l'association Sportavi.
Vibrez au rythme de la Coupe du Monde sur Beurre FM. Avec le soutien du ministère chargé de la ville.
Il est 18h10 dans les informés. C'est parti, vous savez, direction Gonesse.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec un grand historien, une personnalité qu'on connaît ici et que j'aime beaucoup, c'est Benjamin Stora. Bonsoir, Benjamin Stora.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ben, ça va doucement, parce qu'avec les histoires de Covid, on est tous un peu fatigués quand même.
C'est vrai, voilà. Vous n'avez pas tort. Est-ce que vous aimez le foot? On était en direct depuis Doha avec les jeunes. Vous aimez le foot?
Bien sûr que je regarde, évidemment.
Vous avez vécu cette victoire de l'équipe de France et puis d'autres matchs aussi. Hein.
Bien sûr. Ben, j'ai vu surtout le Maroc qui a battu la Belgique, évidemment.
C'est incroyable. Deuxième nation au classement de la FIFA quand même, hein, la Belgique.
Ouais. Ben oui, il y a eu une très belle équipe du Maroc, hein. Très très fluide, très souple, très offensive, vraiment très agréable. Quoi.
Vous aimez le foot, ça s'entend, presque on dirait que vous êtes commentateur.
Exactement.
Benjamin Stora, vous êtes historien, mais vous êtes avec nous ce soir pour parler des deux jours donc, de la cérémonie concernant le débat citoyen à Gonesse. Dites-nous tout concernant, évidemment, ce carrefour des récits.
Bah écoutez, c'est très important parce que à ma connaissance, c'est la première fois qu'une commune en France, en l'occurrence la commune de Gonesse, va donner le nom d'une rue importante à Ali Boumendjel, qui a été un grand militant nationaliste. Alors ce qui est important, c'est pas le fait que ce soit simplement la connaissance qu'il était un grand militant nationaliste, mais surtout qu'il a été assassiné par l'armée française et que cet assassinat qui a été maquillé en suicide, sur ordre d'ailleurs de Dossarès, enfin le commandant Sarès à l'époque, eh bien, a été reconnu par la France, donc a été officiellement reconnu. Donc ça a pris beaucoup de temps, une très grosse bataille qui avait été menée par la famille, notamment la famille Boumendjel, et notamment par un ami à moi, qui est Samy Boumendjel, malheureusement décédé aujourd'hui, et qui était un vieil ami depuis 30 ans à peu près. On menait des combats démocratiques ensemble sur un certain nombre de thèmes, et c'est lui qui m'avait présenté en 2010 l'actuel maire de Gonesse. Il était ami avec ce maire de Gonesse, on avait dîné ensemble, et il y avait cette idée, hein, disons, de rendre hommage à Ali Boumendjel à cette époque-là, mais avec la reconnaissance de cet assassinat officiellement par le président de la République française, évidemment, ça donne un éclat, disons, beaucoup plus fort, beaucoup plus important.
Dites-moi, Benjamin Stora, ça se passe le 1er décembre, me semble-t-il, à la salle Jacques Brel à Gonesse. Que va-t-il se dérouler durant, cette journée du 1er décembre?
Ah, écoutez, là, moi, je suis pas l'organisateur, je sais pas, en fait, ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est demain, c'est le fait du dévoilement de la plaque de la rue. C'est pour cela que je serai présent à Gonesse. Mais pour le colloque, non, je suis pas l'organisateur. Moi, ce qui me semble important, c'est de montrer dans l'espace public, et je crois que le maire, d'ailleurs, de Gonesse a tenu à faire inscrire sur cette plaque le fait que Ali Boumendjel a été assassiné par l'armée française, qui figurera en tant que tel sur la plaque. C'est ça, à mon sens, le véritable événement qui va provoquer beaucoup de débats, beaucoup de discussions, peut-être, dans les jours qui viennent.
Ma dernière question, Benjamin Stora, est-ce que, justement, cet événement va donner peut-être certainement d'autres idées à d'autres maires, à d'autres communes de France?
Ah, je pense, oui, effectivement, ça peut ouvrir tout un débat sur le fait de donner des noms de rue, disons, à des militants associatifs, des militants politiques, mais aussi peut-être, il y a d'autres aspects qui n'ont pas été retenus, par exemple, dans mon rapport, qui était la panthéonisation de Gisèle Halimi, et peut-être que la multiplication de ces gestes mémoriels permettra d'autres reconnaissances possibles dans les temps qui viennent, quoi. Je l'espère, en tout cas. Voilà.
En tout cas, il faut rien lâcher.
Voilà, absolument, tout à fait. Je penserai beaucoup à mon ami Samy Boumendjel qui a mené cette bataille pendant de très nombreuses années.
Absolument. Grand merci à vous d'être intervenu et de nous avoir parlé de cet événement, big événement qui se déroule demain au 1er décembre, donc à la salle Jacques Brel à Gonesse. Merci infiniment, mon cher Benjamin Stora.
Merci.
18h14, pause et on se retrouve tout de suite après avec Nicolas Vidal.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h19, si vous venez de nous retrouver, laissez Les Informés de 18h à 19h30, ici même. Nous sommes ensemble et dans une poignée de minutes, justement, nous sommes avec, c'est parti l'interview du jour avec Nicolas Vidal.
Les Informés, l'interview.
Nicolas Vidal qui est le fondateur, le patron de Putsch Media. Bonjour mon cher Nicolas Vidal.
Comment allez-vous?
Mais très bien, très très bien. Quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Beurre FM dans Les Informés. Vous êtes avec nous, dites-moi, comment se porte Putsch Media justement?
Eh bien, on travaille sérieusement avec nos interviews, nos infos, nos articles, nos vidéos qui ne passent pas dans le mainstream, de manière à pouvoir informer au mieux les gens à Lille tous les jours, voilà, du matin jusqu'au soir, sans beaucoup de sommeil, bien entendu. Voilà.
Justement, vous dénoncez un certain nombre de choses, j'aimerais qu'on passe en revue avec vous l'actualité. On parle, vous savez quoi, de la crise de l'énergie. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, vous savez quoi, notamment lorsqu'on parle de pillages qui se multiplient en Île-de-France. Vous avez entendu parler de ça?
Ben forcément, de toute façon, c'est la conséquence immédiate et directe de cette crise énergétique, bien entendu, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début face à une situation qui devient de plus en plus problématique. Bien entendu, la crise de l'énergie, vous savez, hein, la crise de l'énergie, à un moment donné, c'est ce qui fait fonctionner un pays. C'est la première chose que vous faites le matin en vous levant, c'est allumer la lumière, voyez-vous, faire votre café. Mmh. Donc l'énergie, c'est vraiment la ligne de front pour nous, pour continuer à vivre. Donc les pillages, c'est une première information. Et après, vous aurez la pénurie d'énergie, vous le savez aussi. Vous aurez probablement, ça c'est compliqué aussi, vous aurez probablement des pénuries peut-être alimentaires. Dominique Schelcher, le PDG de Super U, le dénonce depuis un certain temps. Vous voyez, ça peut entraîner de graves conséquences aujourd'hui, sachant... je me permets, a dit Farkan là-dessus, c'est que les Français, pour moi, sont pris en otage aujourd'hui de cette crise de l'énergie, puisque les Français aujourd'hui sont les dindons de la farce ou les victimes d'une politique énergétique absolument suicidaire. Nous avons fermé nos parcs nucléaires, nous avons fermé Fessenheim par Emmanuel Macron, ça avait été engagé sous François Hollande, bien entendu. Emmanuel Macron, notamment aussi, a arrêté le projet Astrid en 2017, et puis aussi le gouvernement a demandé à EDF. Rappelez-vous, Bernard Lévy, il y a quelques semaines, qui avait pris à partie Agnès Pannier-Runacher, notamment, sur la volonté du gouvernement de faire fermer, notamment, nos réacteurs qui étaient au nombre de 56. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans la même mise des marchés, et aujourd'hui, on va chercher à droite à gauche ce qu'on pourrait trouver, avec des tensions très, très importantes. Regardez d'ailleurs, ce matin, petite revue de presse, faisons-la rapidement. Oui. Europe 1, ce matin, nous disait que s'il y avait RTE menace en disant qu'il y aura peut-être des coupures d'énergie et que dans ce cas-là, vous savez, les bornes électriques qui permettent de faire le réseau des téléphones portables pourraient être coupées pendant un laps de temps, ce qui vous permettra pas, par exemple, ça c'est très concret dans la vie des gens, oui, d'appeler les services d'urgence, d'appeler la police, d'appeler les pompiers, tout ça. Donc c'est très grave, des exemples comme ça ou des menaces comme celles-ci sont très graves pour nous, citoyens français, qui ne sont, je le répète, que des victimes de, finalement, on a finalement démantelé tout notre parc nucléaire et nous nous sommes mis à la merci du marché européen, ce que n'ont pas fait Adil. Les Espagnols, ceux que n'ont pas fait notamment les Portugais et qui ne rencontrent pas ces problèmes-là. Donc, à un moment donné, c'est une politique qui a été choisie, c'est une politique qui a été assumée, qui a été délibérée. Et aujourd'hui, elle nous mène tout droit dans le mur. Et vous le savez, ça va commencer à vraiment, comme disent nos amis québécois, crisser les molaires à partir du 1er janvier, quand les tarifs de l'énergie vont commencer à impacter très durement toutes les entreprises.
Ah, vous écoutez parler Nicolas Vidal ? C'est alarmant.
Oui. Ben oui, c'est alarmant, il faut dire les choses aux Français. Voilà, donc c'est nos sujets sur lesquels on bosse. Mais du coup, je veux bien que nos auditeurs comprennent que c'est vraiment des choix politiques qui nous amènent là. Donc la réalité, c'est que tout est politique. Un dernier exemple, par exemple. Nous avons signé un accord avec l'Allemagne, vous savez, ce fameux couple franco-allemand auquel je ne crois pas, peu importe. Nous allons donner du gaz aux Allemands qui devaient en retour nous donner quoi ? Nous donner de l'électricité. Et bien les Allemands, ils ont dit que finalement, l'électricité ne la donnerait pas, parce qu'ils préféraient privilégier leur population. Donc aujourd'hui, on se retrouve le bec dans l'eau, et ça va nous coûter très très cher, parce que je ne vais pas parler du bouclier tarifaire, notamment sur les aides aux entreprises, mais ce sont nous, les Français, citoyens, qui allons payer tout ça, et nous aurons bien sûr une dette à 3000 milliards aujourd'hui, qui devrait augmenter très sévèrement dans les années à venir. Il faut quand même que les gens aient conscience de tout ça, mais ça va les impacter directement dans leur quotidien, dans quelques semaines.
Nicolas Vidal, autre sujet, autre surprise, c'est celle du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui surprend d'ailleurs, qui annonce sans concertation, personne évidemment, des projets de RER dans certaines grosses provinces. Non pas loin, on parle de Grenoble, on parle de Bordeaux, on parle de Lille. Que s'est-il passé ? Il a une nouvelle mode de communication. Il devient youtubeur désormais, le chef de l'État.
Ben oui, Emmanuel Macron, il avait déjà fait McFly et Carlito, rappelez-vous des petites galipettes sur la pelouse de l'Élysée. Mais Emmanuel Macron, il essaie de se donner de la contenance. il essaye de faire finalement le start-upper, le youtubeur, vous l'avez très bien dit, a dit là-dessus, il n'a pas concerté, mais ça c'est assez courant chez Emmanuel Macron. Et puis la réalité, d'accord, 10 villes qui auraient un RER, à la parisienne, à la, le RER francilien que nous connaissons, on va le faire dans 10 villes. Mais alors, mais qui, ça va servir à qui concrètement? Est-ce que ça va désenclaver la Creuse? Est-ce que ça va désenclaver l'Ariège? Est-ce que ça va désenclaver la Meuse? Concrètement, les 60% de Français, des gens qui vivent dans la périphérie, dans la, ce que j'appelle la France abandonnée, est-ce qu'ils vont en bénéficier aussi? Quel va être le financement? Quel va être le financement de ces RER? Regardez le 3 000, je vous rappelais, 3 000 milliards de dettes pour la France. Qui va financer ça? Comment ça va se passer entre les départements, les régions, les mairies, l'État? Qui va financer ça? Et une nouvelle fois, je crois que c'est la meilleure expression de la déconnexion totale d'Emmanuel Macron, qui, vous le savez, est toujours finalement dans la mobilité, l'interconnexion, la flexibilité, en un mot, la Start-up Nation. Mais la France, cher Adil, n'est pas la Start-up Nation. C'est 60% des gens habitent en France périphérique et ça ne servira pas à ces gens. Et après, il y a des questions aussi qui se posent beaucoup plus importantes. Je vous ai parlé du financement, mais je voulais vous parler aussi de qui sécurise aussi les RER. Qui va sécuriser? Parce qu'il faut une politique en mobilité, une politique de sécurité. C'est le cas dans plusieurs villes. Donc toutes ces questions aujourd'hui sont compliquées. Et pour finir, bien entendu, vu la situation économique de la France, cher Adil, les RER vont passer dans quoi? Ils vont passer dans No Man's Land, ils vont passer dans des friches industrielles, dans une économie française ravagée. Enfin, concrètement, aujourd'hui, ce n'est pas très sérieux. Vous avez, j'imagine, vu la vidéo d'Emmanuel Macron qui annonce ça, en nous disant c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Ben, Emmanuel Macron, il continue à nous parler comme un ado post-pubère.
D'ailleurs, c'est le premier président, évidemment, à emprunter la voie du numérique, c'est-à-dire que régulièrement, il utilise les réseaux sociaux pour communiquer.
C'est une première chose
pour un chef de l'État.
Vous avez raison. Là où certains voient de l'innovation, moi, je vois de l'infantilisation. Je pense que ça manque d'épaisseur dans la vision, dans la communication, donc dans le fond et la forme. Parce que vous l'avez dit en début de présentation du projet, il y a un moment donné dans ce projet-là, il n'en a parlé à personne. Il a eu cette idée et il s'est dit, tiens, je vais faire une vidéo, je vais annoncer 10 RER dans 10 grandes métropoles urbaines. Vous voyez bien qu'à un moment donné, tout ça ne peut pas marcher et que je pense que la France, nous avons parlé des problèmes de l'énergie qui vont se poser à nous tous, cher Adil. Et je crois qu'aujourd'hui, il est un peu indécent d'aller balancer des projets qui mettront 10, 15 ans, 20 ans à voir le jour, s'ils voient le jour.
Autre sujet qui préoccupe, mon cher Nicolas Vidal, vous, le patron fondateur de Putsch Media, qui cartonne d'ailleurs en audience, j'ai vu. Bravo Nicolas Vidal.
Merci.
La guerre en Ukraine, peut-on s'inquiéter évidemment? Est-ce qu'il y a une issue de sortie? Est-ce qu'il y a des solutions, notamment, vous savez, cette toute dernière déclaration d'Angela Merkel qui estime qu'elle n'avait plus le pouvoir d'influence concernant Vladimir Poutine. Peut-on s'inquiéter justement cette guerre en Ukraine?
On peut s'inquiéter à plusieurs titres. Déjà, ce n'est bon pour personne. La deuxième question qui se pose à nous, Français, et vous l'avez vu avec la crise d'énergie, parce que les sanctions russes nous reviennent comme un boomerang dans la figure, pour ne pas dire autre chose. Donc la question, c'est quels sont nos intérêts, concrètement? Aujourd'hui, on voit bien que les citoyens français sont totalement mis à l'écart de cette guerre, alors que nous sommes aujourd'hui co-belligérants, puisque nous aidons économiquement et militairement l'Ukraine. Et on peut se poser la question aussi de la place qu'a prise Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, dans des décisions qui ne la concernent pas, dans des prérogatives qui ne concernent pas l'Union européenne. Donc là, vraiment, c'est compliqué. À noter aussi que les Américains jouent une partition extrêmement importante. La réalité, c'est quels sont les intérêts des Américains à nous mener dans ce conflit qui s'étend concrètement, sachant que les Américains, je vous le dis, c'est toujours suivre l'argent. À un moment donné, les Américains aussi nous importent du gaz de schiste, du GNL, toute une série de choses aussi qui nous vendent aux tarifs forts. Donc il ne faut jamais perdre de vue, il faut sortir du manichéisme, il faut sortir de l'analyse géopolitique à barbapapa, il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, il y a des intérêts financiers très importants dans ce genre de guerre, et il faut savoir quels sont nos intérêts. Et aujourd'hui, on vous enrobe ça de valeurs européennes, de démocratie, de liberté des peuples, de souveraineté. Je ne crois pas que l'Union européenne soit très à cheval sur la liberté des peuples et leur souveraineté, surtout quand on va signer, vous le savez, un contrat gazier avec l'Azerbaïdjan, notamment avec le problème en Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, donc tout ça est un problème très complexe dans lequel il faut éviter absolument le manichéisme. Et pour terminer là-dessus, pour nous, journalistes, très sincèrement, c'est un cas d'école, parce qu'il faut éviter en permanence les propagandes des deux côtés. Voyez-vous, qu'elles soient russes ou du côté autant-américain. Voilà, c'est très compliqué.
Grand merci à vous, j'espère vous retrouver en plateau, en direct avec nous ici, avec évidemment le tout nouveau média. C'est vous le franc-tireur en réalité, Putsch Media.
Merci Ali, le plus vite possible vous revenir en plateau. Bonne soirée à tous les auditeurs.
Bonne soirée mon cher Nicolas Vidal et merci à vous, vous le patron fondateur de Putsch Media. Je le rappelle, allez-y, jetez un œil évidemment sur ce qui s'y fait, notamment ses interviews et sans détour, il décrypte l'actualité. 18h30 précisément et c'est parti pour le Quoi de Neuf. Allons-y.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est comme chaque lundi avec Maître Franck Serfati. Il est avec nous, donc, Maître Franck Serfati. Bonsoir. Allô. Bon, problème de connexion. Allô. Bon, bah, je sais pas. Écoutez, Maître Franck Serfati, on a un problème de connexion pour son Quoi de Neuf. Comme chaque lundi, il doit parler, vous savez quoi, du 49.3. Je vais présenter, en attendant, nos débatteurs influenceurs. C'est parti. Bonsoir, Jimmy Dalidou.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va?
Ça va, et vous?
Le représentant CGT, mais également auteur. Face à lui, nous avons Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui comédien aujourd'hui.
Oui, bonsoir Adil, bonsoir.
Et porte-parole aussi, porte-parole des policiers.
Et porte-parole d'une association, l'UPNI, Union des policiers nationaux indépendants, et le indépendant a toute sa signification.
À vos côtés, Nabil, justement, qui est le représentant du département 93 pour Renaissance. Nabil, comment ça va?
Bonsoir Adil.
Voilà que j'ai un trou de mémoire sur le nom. Oh,
Aïtakash.
Mais oui.
Oh, ça m'aime bien que vous le...
Ouais. Vous avez raison, vous avez raison. D'ailleurs, on salue votre maman.
Merci.
Je la salue, puisque c'est une fidèle auditrice.
Exactement.
Eh bien, madame Aïtakash, je vous salue. Merci pour votre fidélité. Le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est comme chaque lundi. Vous le savez, c'est avec Maître Franck Serfati. Bonsoir, mon cher maître.
Bonsoir, Adil.
Bonsoir. Alors, avec vous, nous allons traiter du 49.3. Vous avez évidemment à vous la parole, donc pour en parler.
Merci, mon cher Adil. Tout d'abord, rappeler à nos auditrices et auditeurs que la 5e République en France, il y en a eu 5, donc, depuis la Révolution française, la première date de 1792, 3 ans après la Révolution de juillet 1789. Et puis cette 5e République est organisée par un texte suprême, la Constitution du 4 octobre 1958. Donc un document juridique fondamental qui organise le fonctionnement des institutions, avec, chacun le sait, 3 pouvoirs fondamentaux. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, ou plus précisément l'autorité judiciaire. Et de 1974, avec l'affaire Nixon aux États-Unis, on parle d'un 4e pouvoir, le pouvoir des médias, qui est peut-être devenu depuis quelques années le premier pouvoir. Mmh. Et au terme de cette constitution, donc document fondamental, texte fondamental du 4 octobre 1958, encore une fois, la loi en France est votée par le Parlement, composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, avec un pouvoir normatif du gouvernement. Donc le gouvernement ne rend pas des lois, il rend des textes que nous appelons dans le jargon juridique des décrets ou arrêtés, des règlements, avec un pouvoir particulier. C'est une singularité mise en place par cette dernière constitution de 1958, singularité également par rapport aux autres démocraties, qui est fixée, prévue par l'article 49.3, justement, de la constitution, qui permet au gouvernement de faire, entre guillemets, passer un texte sans débat parlementaire. Donc on vient ici au visa de ce texte constitutionnel, encore une fois, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, permettre au gouvernement de faire passer, d'établir un texte sans débat parlementaire. Et tout récemment, le gouvernement actuel a usé, peut-être abusé, de cette faculté au détriment du Parlement, puisque le 19 octobre dernier, sur le projet de loi de finances 2023, donc un texte extrêmement important, le 20 octobre également, le 26 octobre dernier, le mois dernier, sur le financement de la sécurité sociale, le gouvernement français a décidé donc de faire passer ces textes sans débat parlementaire, sur le fondement, en visant encore une fois, de l'article 49-3 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui permet donc à l'organe exécutif de faire passer un certain nombre de textes, de décisions, sans débat parlementaire.
Merci mon Shrek, mon cher maître Franck Serfati, mon réalisateur Anthony me speed parce qu'on est très en retard. Merci, à lundi prochain.
Bonne
sans
semaine,
faute.
À lundi prochain, au revoir.
Merci à vous, prenez soin de vous, c'est parti.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h41 précisément, bienvenue à vous tous, c'est parti, vous le savez, pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Jean-Pierre Colombiès, rebonsoir.
Bonsoir.
Le face-à-face avec Jimmy Dalidou, bonsoir, rebonsoir. Et enfin avec Nabila Itakash, rebonsoir.
Bonsoir.
Trois messieurs, hein, manque de voix féminine, évidemment, on me le reproche souvent d'ailleurs. Donc attention Adil Farkan. messieurs, nous allons démarrer avec la crise énergétique. Bon, alors, ça commence... Les gens commencent à s'inquiéter. Quand je parle de crise énergétique, je parle de tout, hein, évidemment. La hausse, vous savez, des tickets de métro, du pass Navigo, une hausse de 20 à 36% qui sont envisagées. Là, quand même, ça bat des records, Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir, rebonsoir. Oui, ça bat des records et c'est dangereux. Pour moi, l'augmentation, si on parle que de l'augmentation du pass Navigo, qui fait déjà de l'objet...
En tout cas, la décision, elle passe mal.
Mais nécessairement, parce qu'elle va frapper qui, cette décision? Je parle de l'augmentation, tout simplement, de l'ancien ticket de métro ou du pass Navigo. Elle va frapper qui? À part les plus précaires, ceux qui, justement, se lèvent le matin pour aller bosser. Je sais, c'est quand même scandaleux que, justement, on annonce ça comme quelque chose d'inéluctable, que les gens qui vont bosser dans les transports en commun vont être pénalisés, et pas qu'un peu. Si le pass Navigo passe de 75 à 100 euros, vous vous rendez compte de l'impact que ça va avoir. Donc, à mon avis, ça va s'agréger, ça va syncrétiser avec une colère qui est déjà là, prégnante, avec, effectivement, ça a été dit par l'intervenant tout à l'heure, en ligne, ça risque de s'agréger avec d'autres colères sur l'alimentaire et puis, une pression constante qui pèse sur les Français depuis plus de 2 ans maintenant. Et je crois que c'est très, très dangereux d'aller dans cette voie-là.
Monsieur le représentant de la CGT, Jimmy Dalidou.
Oui, non, mais en fait, c'est pas seulement ce qui devient problématique dans ce pays, c'est que dès qu'il y a...
Ce qui est problématique, c'est ça s'annonce salé, surtout.
Ouais, non, mais
clochette
surtout, c'est surtout que, en fait, elle est pas seulement énergétique, la crise, vous voyez. Le problème qui se pose, c'est que vous avez une majorité de Français qui s'en sortent pas à la fin du mois, qui, une fois leur salaire tombé sur leur compte en banque, est instantanément canalisé et capté par leur facture à payer, et on est en train de leur dire que leur pass Navigo va augmenter, et même si c'est 2-3 euros, c'est une question de principe de le refuser. Pourquoi? Parce que alors quand il s'agit de alors on nous dit qu'il y a une crise, il y a pas assez d'argent, etc. Alors je reviendrai pas sur
1er janvier, 90 oui, euros le pass mensuel Navigo.
Attendez,
c'est énorme.
Si l'État est capable de dépenser plus de 2 milliards d'euros pour utiliser les services des agences McKinsey, je suppose qu'il est capable d'injecter autant d'argent.
Oh, là, il a droit de clochette, lui. Il a droit de clochette. Oh,
il mélange tout. Non, mais on ne mélange pas tout. C'est qu'on nous dit que système ferroviaire, par exemple, coûte cher. Mais non, le système ferroviaire, il coûte pas cher. Ce qui coûte cher, ce sont les choix politiques de certains politiciens qui s'orientent toujours dans le sens...
Vous êtes dans le ferroviaire, vous allez nous coûter cher.
Non, mais attendez, le pass Navigo, vous savez, le pass Navigo, déjà, son existence n'est pas normale. Les transports publics devraient être gratuits, comme au Luxembourg. Au Luxembourg,
c'est un autre pays, c'est autre chose.
Et ne serait-ce que pour le trajet domicile-travail. C'est pas normal que lorsque vous avez des politiciens, qui se baladent dans un jet privé, qui voyagent un petit peu partout dans le monde.
Vous êtes en train d'énerver Nabil Itakash, là, le sens, là. Il a qu'une envie, c'est de s'emparer du micro. Je vous le dis, hein.
On dit à la majorité des Français qui sont issus de la classe ouvrière et des couches populaires qui s'en sortent pas, qui, eux, pour aller travailler, vont payer encore un peu plus. C'est inadmissible. Donc, faut pas laisser faire. Et comme
alors, il y a Nabil. Nabil veut vous répondre. Nabil Aitakash.
Alors, je vais pas revenir sur.
Vous avez vu, hein, vous êtes.
Ouais, ouais. Je vais pas revenir sur les points caricaturaux des jets, etc. Parce que bon,
c'est une réalité objective là-dessus.
Bon, on va juste remettre les choses un peu dans leur contexte. Déjà, premièrement. Beaucoup de choses ont été dites. Ce n'est pas l'État qui gère la compétence des transports. Ce sont les régions. Donc, c'est Madame Pécresse.
Pas seulement.
C'est Madame Pécresse qui annonce cette augmentation. Donc, les régions ont la compétence des transports.
Pas seulement.
Elles n'arrivent pas à boucler.
Ah, donc, la réforme.
Je t'ai laissé parler.
Laissez-le développer quand même. Après, vous allez répondre. Ouais.
Madame Pécresse n'arrive Madame Pécresse n'arrive pas à boucler son budget cette année, enfin pour l'année prochaine. Donc, elle entame un bras de fer, comme elle sait le faire, avec l'État. Parce que c'est elle qui est présidente de Île-de-France Mobilité. Donc c'est elle qui a la compétence, encore une fois, des transports. Donc c'est elle qui va décider de l'augmentation du pass Navigo. C'est une manifestation encore de la crise actuelle. C'est dramatique. Les prix de l'énergie augmentent. Donc forcément, ça a une répercussion sur les coûts. Je ne vais pas revenir sur la question des coûts de la gratuité des transports publics.
Ça va coûter cher aux Français, aux Franciliens.
La gratuité des transports publics.
Quasiment presque 100 euros le pass Navigo.
C'est comme si on rendait les transports gratuits à Bordeaux. Enfin, là, on parle de la France. Hein, c'est 68 millions d'habitants. Ce n'est pas de Luxembourg. Donc ça, ce n'est pas possible en France déjà. Donc bref, tout ça pour dire que Mme Pécresse, elle engage un bras de fer. Il va y avoir des solutions. Je ne sais pas lesquelles pour le moment. Il y a les textes de budget pour l'année prochaine qui vont être votés. Madame Pécresse l'a déjà fait, en fait.
Nabil Aitakash, le ticket à l'unité, aujourd'hui, il vaut 1,90. 1er janvier, il va coûter 2,30 euros.
Non, mais c'est pas possible.
C'est pas
une charge. On ne peut pas laisser cette charge absorber.
Allez-y,
installons le débat. Pourquoi Jimmy Dalidou?
Attends, tout à l'heure tu disais que l'État, tu es en train de déresponsabiliser l'État et tu es en train de tout réorienter vers les collectivités territoriales. Je te rappellerai une chose, que ces dernières années, tu as eu je prends l'exemple sur le ferroviaire par exemple, parce que le ferroviaire c'est un élément clé. Le ferroviaire, il y a eu 4 paquets ferroviaires avant d'arriver à la réforme ferroviaire. C'est qui a pondu la réforme ferroviaire? C'est les collectivités territoriales? Non, c'est l'État. Et c'est tous les gouvernements de gauche comme de droite ont finalisé leurs 4 paquets ferroviaires avant. Ils ont écrit des textes qui s'appellent des paquets ferroviaires et qui ont amorcé la réforme ferroviaire qui a été finalisée il y a quelques années lorsque les cheminots s'étaient battus pour justement tenter de la résorber. Cette réforme ferroviaire a eu pour principale conséquence de dégrader le fonctionnement convenable du service public ferroviaire. Et tu sais pourquoi? Parce que cette réforme ferroviaire était une politique globale, générale, émise par l'État, qui consiste à détruire les services publics sur l'autel du profit.
On a des services de transport qui fonctionnent quand même globalement en France. Il y a des problèmes.
Non, ça fonctionne.
Il y a des améliorations.
Ça fonctionne mal.
Il y a des améliorations. Ça fonctionne.
Ça fonctionne mal
à certains endroits.
T'as des trains qui sont pris.
Mais globalement, on a une offre de transport. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement en 2017 avec les gouvernements de Macron, premier mandat, de rattraper justement tout ça? Il y a 14 milliards qui ont été mis dès 2010 pour la période 2017-2023 et pareil 2022 et 2022-2027. C'est 12 milliards puis 13 milliards d'euros qui ont été mis. Donc on va pas à tous les niveaux, il y a des choses à faire sur l'hôpital, sur l'école, sur les transports. Sûr, oui. Donc c'est ce sûr, gouvernement,
prend sa responsabilité
sur tous les retards qui ont été accumulés.
Vous allez fermer des lignes de train
ces 30 dernières années.
Ouais, alors Jean-Pierre Colombier.
Oui, non, ça, je suis pas d'accord du tout.
Bon, avec qui? Avec Nabil Aitakash.
Un peu tout le monde, je veux dire, pour le coup. Non, dire que le gouvernement défend le service public, je peux pas laisser dire ça. Il y aurait plein d'arguments, mais on y passerait. C'est pas une demi-heure qu'il nous faudrait, c'est des heures. Je suis désolé. Moi, j'ai des retours du terrain, que ce soit au milieu hospitalier ou au niveau de la sécurité, de la justice, de la police. Je suis désolé, vous n'êtes pas à jour. Il y a un vrai problème chez vous. c'est la communication.
Je suis là, vous vous adressez à Nabil et Takash.
Oui, ouais. La renaissance de l'homme, je veux pas, il n'y a pas d'attaque personnelle dans cette histoire-là.
Non, on a bien compris. On a bien compris, mon cher Jean-Pierre.
Le discours global, je parle de renaissance et je parle de ce gouvernement. Il y a un gros problème de communication, vous ne savez pas communiquer. Et malheureusement pour vous, les têtes pensantes ou les grands sachems du gouvernement sont plus dans la provoque que dans l'amortissement des mauvaises nouvelles. Et là où ça ne va pas, c'est effectivement, on peut justifier ça d'un point de vue comptable. Moi, je n'ai pas le budget de l'Île-de-France sous les yeux. Je serais très probablement incapable de le décrypter. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on incite, on veut inciter les gens soit à prendre la voiture électrique, aller tous vers l'électrique, alors qu'on va avoir un sérieux problème de facture électrique, soit prenez les transports en commun et bing, on vous taxe encore plus sur les transports en commun. Donc il y aurait probablement, je ne dis pas que l'État est responsable de tout, je dis par contre, le gouvernement risque d'avoir la responsabilité de ne rien faire. Et ça, c'est gravissime. Si vous cumulez sans arrêt les problématiques de communication, j'entends bien, pour qui vont crisper l'opinion publique au point d'aller vers la rue, ne vous plaignez pas.
Là, je comprends pas quel est le point de communication du gouvernement là-dessus. C'est Madame Pécresse
mais
qui engage.
Mais parce que vous renvoyez la balle systématiquement.
C'est Madame Pécresse qui engage ce bras de fer avec réponds. L'État.
Attendez, c'est pas seulement Madame Pécresse qui a privatisé les services publics.
Je vous réponds.
Ils ont pas été privatisés. C'est pas ça seul.
Chacun tour de rôle. Nabil Aït Takash, Jimmy Djalidou.
On a une SNCF, une RATP qui sont des entreprises. Voilà, on va pas dire qu'on a privatisé les services publics. Allez voir ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Allez voir ce qui s'est passé en Angleterre.
Je vais t'expliquer pourquoi ça a toujours été privatisé.
Voilà,
messieurs, nous nous retrouvons dans une poignée de minutes. Pause et on se retrouve avec vous, messieurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec Jimmy Dalidou, avec également Jean-Pierre Colombiès, mais également aussi avec Nabil Aït Takash. Messieurs, je devais, dans l'ordre, donner la parole à Jimmy Dalidou, ensuite Jean-Pierre Colombiès, et enfin Nabil Aït Takash. Mais il faut qu'on avance dans les sujets. Alors, concernant la crise, la hausse des prix, l'inflation, la hausse des tickets, et puis on vient d'apprendre que, notamment, le Navigo passe à 400 euros pour les jeunes étudiants. Tout ça, ça fait beaucoup.
Oui, tout à fait, ça fait beaucoup. Je prends exemple, on en parlait justement, avec les étudiants qui galèrent. Quand je pense à très justement, l'étudiant qui travaille dans un McDo pour payer ses études, le mec il doit travailler dans un McDo par exemple, il se retrouve à produire du profit pour son patron, en plus d'avoir ses études sur le dos, et de plus on va lui dire qu'il va payer son passe Navigo 90 balles, et lorsqu'il va mettre un gilet jaune, on va lui dire t'es un mauvais garçon. Bon, vous voyez, ça c'est toute la logique politique de Renaissance. Ensuite, je reviendrai sur un élément important. Parce que le service public, quand on parlait de service public, on parlait pas de n'importe quoi. Il y avait trois piliers du service public.
Ouais.
Égalité, continuité, universalité. Et ces trois piliers du service public faisaient que le fonctionnement du service public s'orientait toujours dans le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que si tu étais malade, tu avais ton hôpital, tu avais une urgence, tu avais ton commissariat, tu devais te déplacer, tu avais ton train. Tout ça, ça a été pulvérisé sur l'autel du profit. Et je prends un exemple concret. Nabil, tu nous dis que c'est faux. Le statut public s'est transformé en société anonyme. Et à partir du moment où tu te transformes en société anonyme, même si ton État est actionnaire à 100%, il n'y a pas d'incessibilité du capital. Ça n'existe pas dans le cadre du monopole, du capitalisme de monopole.
On va pas rentrer
dans
des débats
techniques. Ça veut dire que la société anonyme a finalisé cette destruction des services publics sur l'autel du profit, parce que dans un contexte géopolitique global, il fallait que le gouvernement fasse du fric.
Qui détient la RATP?
Et tu sais bien que la RATP va être libéralisée.
Qui détient la RATP?
C'est plus long.
Réponds à cette question. Qui détient la RATP aujourd'hui?
Pour l'instant, c'est l'État.
Pour l'instant, mais qui t'a dit qu'elle allait passer un jour qu'elle allait être privatisée? Elle est à 100% détenue par l'État.
C'est en cours, elle va être privatisée. Elle sera libéralisée. C'est pour ça que les gars le syndicat RATP se bat.
Ils sont en manif aujourd'hui.
Exactement.
D'ailleurs, l'ancien Premier ministre, Jean Castex, a été accueilli évidemment avec sa première maniste. Et évidemment, il a fait une vidéo pour leur répondre. Jean-Pierre Colombiès, et on passe au second sujet, s'il vous plaît.
C'est vrai qu'Adil,
il y a un sujet qui vous tient à cœur aussi, c'est les risques.
Particulièrement acerbe avec certaines anciennes gouvernances, particulièrement Sarkozy et Macron, particulièrement sur les thèmes sécuritaires, s'entend. Et là, il n'y a pas de souci, on peut débattre sans problème et sans fin. Par contre, je ne ferai pas un procès de l'immédiateté. C'est-à-dire que ce à quoi nous assistons, effectivement, une offensive de masse contre le service public, elle date d'il y a plus de 30 ans. C'est pas Macron qui l'a initié, c'est même pas Hollande, c'est même pas Sarkozy. Et ça avait commencé bien avant eux, cette volonté de casser ce qui était un petit peu ce qui faisait la particularité du vivre ensemble en France. Ouais. Et ça, c'est incontestable. Qu'on ne me dise pas que Macron défend le service public, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un faux argument. Après, on peut s'opposer sur des arguments. Bon, là, d'un point de vue politique, moi, je suis pas politique. Je suis engagé ni à droite ni à gauche. Donc, quand je fais un bilan des uns vis-à-vis des autres, il y en a autant pour la gauche que pour la droite. Mais voilà, fondamentalement, oui, il y a un désengagement, une volonté de désengagement.
Oui, mais vous êtes dans la critique. Il n'y a pas la solution.
Enfin, ah si, je les ai, les solutions.
Non, vous êtes dans la critique. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est des gens qui critiquent.
Par contre, j'entends pas beaucoup de remise en cause chez Renaissance. Non, mais en général.
Vaut mieux la critique que la destruction. Parce que Renaissance, apparemment, c'est les professionnels de la destruction.
C'est pas aussi loin.
C'est très caricatural.
Non, c'est la réalité.
Messieurs, nous allons passer à ce second sujet, s'il vous plaît. 18h55 pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Vous pouvez interpeller nos débatteurs influenceurs au 01 53 48 3000. Un drame devait finir par arriver. Ça, c'est une déclaration. Djibril, 14 ans, tué lors d'une rixe dans les Yvelines à Coignières. Eh bien, ces assaillants l'ont lâché et l'un d'entre eux aurait utilisé un marteau dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il se terminait une compétition de MMA. Un adolescent de 16 ans s'est rendu à la police dimanche. Le RICS, on en a souvent parlé, Jean-Pierre, ici même, sur cette antenne dans Les Informés. Hein. Que peut-on dire ?
On peut dire que c'est là, pour le coup, ce phénomène-là, parce qu'on fait, si on met les derniers...
Choc, effroi.
Non, mais on a eu beaucoup de faits divers qui se sont succédés ces dernières semaines. Moi, à chaque fois, j'ai fait la part des choses en précisant bien que les uns n'avaient rien à voir avec les autres. Il y a des faits divers qui sont des faits divers de société et des faits divers typiquement liés à un acte aussi atroce soit-il. Je pense à l'assassinat de la petite Lola. Là où on atteint un phénomène de société, c'est dans la déliquescence des valeurs et le fait que des gamins se sentent parfaitement légitimés à effectivement les rouer de coups leurs petits copains, leurs petits camarades, et jusqu'à les tuer. Tu vois, là, on est véritablement dans un effondrement. Ça va très loin.
Est-ce que le RICS n'a pas emprunté un virage nouveau avec le phénomène des réseaux sociaux?
Il y a pas que ça. Il y a le phénomène des réseaux sociaux. Il y a l'éclatement de la cellule familiale qui est lié à plein de choses, au trafic de drogue notamment, à des problématiques on a probablement trop victimisé aussi les mineurs, globalement les gamins, on leur a trouvé toutes les excuses, et ça pour moi c'était une erreur fondamentale, on a fait presque de l'enfant Dieu. Parliez de l'Angleterre, moi j'ai bien connu l'Angleterre aussi, où il y a cette sorte de culture de l'enfant roi. L'enfant, il faut le protéger, mais jusqu'à l'absurdité même. Et on voit dans des exemples comme ces faits divers, et pas seulement celui-là, une déliquescence justement des relations entre les gamins. Il y a un fort individualisme.
Mais surtout qu'on voit un gamin au sol en train de mourir.
Parce qu'il y a deux choses.
Comme dit, c'est ça qui est terrible.
Oui, mais il y a un phénomène de toute puissance de la part de certains gamins qui s'imaginent que tout est permis, tout est possible. Et puis, ils sont à, je ne sais pas combien étaient des agresseurs, mais c'est aussi le phénomène de meute. Voilà, on arrive en groupe sur un seul et on se fait plaisir. On le massacre. Donc là, c'est effroyable. Et je vous rappelle quand même qu'il y a un autre petit fait divers qui est heureusement plus modéré. C'est la vidéo qu'a envoyé un super-héros au frère de Lola.
Ah oui.
Une vidéo humoristique. Là, on est par contre dans la manipulation des réseaux sociaux et dans l'idée qu'on peut tout faire dès lors que c'est dématérialisé. Donc, s'il n'y a pas un phénomène, il y en a plusieurs, c'est multifactoriel et ça nécessiterait, alors là, des débats sans fin. Mais ça, vous savez, la solution de ces problèmes, parce qu'il y a des solutions, et c'est vrai que je polémique beaucoup, je suis vraiment parfois même un peu méchant, mais quand on attaque un sujet, j'apporte parfois des pistes de, je le fais plus longuement par ailleurs, mais j'apporte parfois des pistes de réflexion. Mais tout commence par l'éducation. Et là, attention, je mets des guillemets, pas l'éducation à l'école, qui n'est pas chargée de ça. Je parle de l'éducation dans les familles. Il faut renvoyer la charge.
Vous renvoyez la responsabilité aux familles.
Mais bien sûr, et à tout le monde. À tous ces groupes de pensée qui ont judiciarisé à l'extrême la vie des cellules familiales. Et je suis désolé, l'État n'avait pas à se mêler de là. Alors pour le coup, quand je dis l'État, comprenons-nous bien, très cher monsieur. L'État macroniste. Dans l'entité, on s'est fait plaisir à judiciariser au maximum la vie quotidienne dans les familles. Et ça, c'est
terrible. Parce que tous les gamins, moi j'ai connu l'époque dans les années 90 où les gamins se sentaient suffisamment forts pour aller dénoncer les parents quand ils prenaient une claque ou qu'ils étaient grondés trop fort. Et on arrive aujourd'hui à un sentiment de toute puissance de gamin qui aujourd'hui Nabil. Vient d'être à l'école.
Nabila et Takash.
Je suis globalement d'accord avec tout ce qui vient d'être
globalement,
dit.
Globalement, c'est déjà pas mal.
Tout ce qui vient d'être dit, il y a une barbarisation dans les actes et de plus en plus jeunes. C'est dramatique.
C'est dramatique.
C'est insupportable pour tout le monde. C'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas vécu ça, de près ou de loin, ou même eux-mêmes, ressentent cette violence comme s'ils l'avaient vécu eux-mêmes. Ça dit quelque chose de la société, ça ne va pas. Et je suis complètement d'accord quand...
C'est quoi ça dit quelque chose de cette société? C'est quoi? C'est important ce que vous dites là. Ça a interpellé mon oreille.
Non, mais ça dit la violence à laquelle sont exposés aussi les jeunes, les enfants. C'est anormal d'en arriver à des actes barbares comme cette Rix. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment,
c'est vrai, le rouet de coups juste en train de mourir,
oui, dans la pulsion, ouais. c'est un phénomène de meute. Et il y a un moment où on ne peut pas en effet décharger l'école. Il y a des parents qui pensent que l'école est une garderie ou qui doivent en fait refaire l'éducation.
Vous avez raison, c'est vrai.
C'est une garderie. Et en fait, quand on parlait de service public, etc., je pense que c'est tout ça qu'il faut repenser à un moment. C'est-à-dire que le service public, oui, c'est l'école, c'est instruire. C'est pas simplement scolariser un enfant qu'on va déposer dans une école et qu'on demande à l'école de lui faire son éducation de base. Il y a un moment où on renvoie en effet la responsabilité aux familles, en effet, mais aussi à tous les acteurs de la société, parce qu'il faut accompagner ces familles dans l'éducation d'enfants dans une société de plus en plus violente.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors deux choses. D'abord, oui, effectivement, c'est assez. Moi, ça m'inquiète beaucoup ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est un événement qui a été médiatisé, mais ça se passe souvent malheureusement en France. Là d'où je viens, j'ai grandi dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, et je voyais bien mes copains qui souvent rentraient dans une forme d'ultra-violence assez destructrice d'ailleurs pour eux et pour leur famille. Et effectivement, je pense qu'il y a un manque d'activité. Il faut que ces jeunes, il faut qu'ils aient des activités, il faut qu'ils aient un encadrement, il faut qu'il y ait discussion. Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait moins de propagande violente. Moi, je m'en souviens au quartier, au 3000, tous les jeunes, tous mes potos, ils rêvaient d'une seule chose. Moi, je me disais, mais t'es.
Rêvaient de quoi?
Ils rêvaient de devenir Tony Montana dans Scarface. C'était l'exemple qu'ils avaient.
Et en fait, ça
reflète bien cet état d'esprit. C'est-à-dire, ils sont entourés par une agitation propagande qui les éduque dans ce sens. C'est-à-dire.
Bien sûr, Jean-Pierre, bien sûr.
Qui les éduque dans le sens de la violence, de la réussite matérielle par tous les moyens. Et certains certains frérots pour arriver à avoir une vie de Tony Montana, ils faisaient du trafic de shit.
Je rajouterais
d'une manière générale, il y a vraiment une perte d'espoir dans la jeunesse de ce pays, parce que quand on te dit que de toute façon t'as pas de travail, quand tu vas travailler tu vas toucher 1300 balles et que tu t'en sortiras pas, et ils ont des exemples dans les 3000 ils avaient l'exemple des parents, t'as une perte d'espoir. Et je reviendrai juste sur un deuxième élément, je voudrais conseiller aux auditeurs le bouquin Psychologie de la masse de Gustave Lebon, qui démontre comment, parce que vous avez parlé des pulsions, etc. Et ça, effectivement, lorsqu'il y a phénomène de masse, il y a extériorisation de la pulsion d'une manière beaucoup plus facile, indépendamment de notre origine sociale, de notre origine ethnique, de notre âge ou quoi que ce soit. Et il démontre bien dans ce livre comment ce phénomène de masse permet l'extériorisation des pulsions, et que vous soyez rebeu, renois, blanc, que vous ayez 16 ans ou 30 ans, c'est un phénomène qui est malheureusement inhérent à l'espèce humaine.
Jean-Pierre, ouais, Colombien.
Pour compléter le propos, si je puis me permettre, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un phénomène d'exemplarité via les médias, puisque les médias ont une forte impact dans ce que nous vivons, ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un peu la course à l'échalote, c'est un peu celui qui fera la plus belle agression, qui sera l'objet d'une vidéo sur TikTok ou je ne sais trop quel réseau. Et puis il y a un autre problème qui est tout aussi grave, c'est celui de l'exemplarité. Je suis désolé, mais on vit aujourd'hui dans un système sociopolitique, mais pas là encore, je mets à part la période actuelle, parce que c'est totalement transversal. Il y a un système aujourd'hui qui fait que si on a un voyou, un gros voyou notamment, on s'en sort mieux qu'un petit. Et ça, au niveau des gamins de cité, c'est catastrophique. Je reprends toujours cet exemple, enfin pas toujours, mais quelquefois l'exemple de Balkany, le Valois-Perret. Balkany, aux États-Unis, il aurait pris 150 ans de prison et serait jamais sorti. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui a 30 ans d'escroquerie derrière lui. Alors, sa femme a dit, oui, mais c'est pas de l'argent public. Bah, c'est quand même un peu de l'argent détourné via des pots de vin et autres. Donc, bon, il y a une escroquerie qui est caractérisée et des détournements de fonds. Mais c'est pas le seul. Et quand vous avez toute une noria de responsabilités politiques qui échappe à toute sanction, ben, quand vous êtes un gamin de cité ou pas que de cité, du reste, hein, vous êtes un gamin un peu tête chaude, ben, vous vous dites finalement, pourquoi pas moi?
Ouais, mais là, je... Pour répondre à ce que vous dites, on va pas dire que la justice fait pas son travail.
Parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Non, je veux dire quand les politiques, quand il y a pas d'exemplarité. Oui. Là, vous voyez quand même que le parquet national financier
s'est saisi
d'un certain nombre d'affaires qui posaient problème pour donner justement avec des sanctions quand même exemplaires, etc. Donc ça change aussi quand même ces dernières années.
Mais il y a pas d'exécution de la peine. Je suis désolé. Quand vous avez un ancien ministre de Mitterrand, comme ça, il a pas de Mitterrand, je raconte, de François Hollande, il y en a pour tout le monde. Qui a détourné des millions, notre ancien ministre du budget.
Non, il n'a pas détourné, il n'a pas déclaré ses revenus.
C'est si, c'est du détournement parce que vous n'êtes pas imposé dessus. Donc de fait, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État.
Oui, mais quand vous dites détournement, on a l'impression que vous dites qu'il détourne de l'argent public. Il n'a pas déclaré ses revenus.
Donc il ne paye pas d'impôts.
C'est tout aussi répréhensible.
C'est comme le député Thévenoud qui ne les payait pas non plus. Bref, quand vous avez un monsieur comme ça, qui ment devant la représentation nationale.
D'être précis.
Oui, qui ment devant. Non, mais on va l'être, il n'y a pas de souci. Qui ment devant la représentation nationale, parce que je vous rappelle son nom, rappelez-moi son nom de ministre, ça m'échappe, c'est une célébrité. Qui ment devant la représentation nationale en disant qu'il n'a jamais eu de compte en Suisse et qui ne fait pas une journée de prison. Comment voulez-vous, quand vous êtes un gamin qui est chauffeur dans une cité et qui va gagner quelques centaines d'euros en chauffant pour les trafics, qu'il a le moindre sentiment de culpabilité? Comment voulez-vous que ces gamins aient d'autres repères que ceux qu'on voit au travers des clips de rap où on voit des mecs avec des chaînes autour du cou en or qui brille, des super nanas qui dansent autour de lui, qui gagnent du fric facilement et qui parfois glorifient même le trafic de stupes? Comment voulez-vous que ces gamins...
Et qui voient des politiciens après... qui finalement ont la même vie que ce qu'ils voient dans les clips.
D'une certaine manière.
Je défends pas, mais d'une certaine manière.
Vous parlez de l'affaire Cahuzac.
Cahuzac, tout à fait.
Jérôme Cahuzac.
Qui était le summum de l'arrogance pour moi et de l'impunité.
Alors, messieurs, nous allons avancer, d'accord. Et il faut qu'on traite aussi des trottinettes électriques. Parce que, vous savez que non, ça vous fait rire.
Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire.
C'est un vrai sujet, excusez-moi.
J'habite Paris, donc ça me fait rire. Ça me fait
toutes
rire jaune.
Les grosses... Non, il n'y a pas que Paris. Ouais, Bordeaux, Marseille, c'est Toulouse,
c'est l'enfer.
Montpellier.
Non, mais c'est l'enfer.
Vous avez employé le terme. C'est l'enfer. Les pauvres dames, les pauves femmes, avec leurs poussettes.
Mais pas que.
Il y a des jeunes filles qui sont mortes.
Il y a parfois, vous ne pouvez même pas traverser, en fait.
Absolument.
C'est les voitures, c'est les trottinettes. Quand c'est pas les trottinettes,
alors parlons-en. Les trottoirs aujourd'hui qui ne sont plus réservés aux piétons. Là, c'est l'enfer. C'est devenu l'enfer.
Oui. Pour moi, il faut sanctuariser le trottoir. J'ai pris la parole, excusez-moi, je vous la laisse. Mais
allez-y, voilà, Jean-Pierre.
Pour moi, en un mot, le trottoir doit être sanctuarisé pour les grands, les petits, les jeunes, les vieux, les poussettes. Voilà, point barre. Pas de trottinette, pas de vélo, tout le monde.
Alors,
sur la chaussée.
Moi, je peux...
Dabila et Takash.
J'ai bossé sur la loi sur les mobilités, sur les transports, sur le gouvernement précédent. Et j'avais fait toutes les auditions avec justement les acteurs de la sécurité routière nationale. Et dans les discussions, les députés du groupe auquel j'appartiens avaient même suggéré carrément l'interdiction totale. Hein, de ce que je veux dire, qu'il y a un débat partout. L'interdiction totale, même des trottinettes.
Il y a un débat.
Je veux dire, je parle pas des trottoirs, je parle de l'interdiction des trottinettes.
Parce que ça débouche sur un usage.
Ça débouche sur. Parce qu'on voyait très très bien la décision qui a été prise, c'est de dire non, on va pas faire ça, il y a quand même des trottinettes partout dans le monde.
Et c'est l'anarchie, vous avez pas vu ? L'anarchie totale.
Et ça, c'est devenu anarchique. Donc il va falloir maintenant revenir un petit peu sur ce cas-là et en effet discuter et voir ce qu'on peut faire pour qu'au moins les usagers de ces trottinettes. Ça change la vie, ça change aussi quand même, il faut rappeler que ça peut changer la vie des personnes qui se déplacent pour aller à leur travail. Voilà. Donc il y a des bienfaits quand même. Maintenant, il va falloir réguler et réglementer les usages anarchiques.
Ça arrive de partout.
En tapant très fort.
Jimmy Dalidou.
Le problème, c'est que quand on a commencé à mettre des amendes, pour la circulation sur les trottoirs, on va encore reprocher à l'État de se faire de l'argent sur ça.
Je vous promets solennellement que j'en ferai pas partie.
Bah voilà. Donc voilà. Merci.
Mais
parce que c'est
n'abusez pas non plus, n'abusez pas non plus.
Ce qui va être reproché à la fin, parce qu'il n'y a pas d'autres formes.
Jimmy.
Ouais, alors, les trottinettes sont dangereuses. Elles exagèrent. Non seulement elles sont dangereuses, leurs conducteurs, pourrait-on dire, exagèrent parce que non seulement ils sont très dangereux pour autrui, pour eux-mêmes et pour autrui, mais en plus ils se permettent, vous m'excuserez du terme, mais en plus ils se la ramènent tout le temps. Vous leur dites quelque chose, ils se la ramènent, certains sont violents.
Et je laisse nos auditeurs réagir si vous le souhaitez sur les trottinettes. 01 53 48 3000.
En même temps, certains, je me dis, ils ont peut-être.
Il y va fort, Jimmy Dalido.
Non, mais c'est vrai, mais en même temps, certains, je me dis, ils ont peut-être envie de prendre leur trottinette vu le tarif du Pass Navigo. Ils ont peut-être pas envie de prendre le train, quoi, en fait.
Et n'oublions pas que je ne suis pas certain qu'on sache bien recycler les batteries des dites trottinettes. Donc je suis pas convaincu.
Vous allez vous faire taper vous, hein. Jimmy Dalido. Vous avez insulté ceux qui utilisent les usagers de la trottinette.
Ouais, j'ai l'habitude de.
Vous vous rendez compte ce qu'il vient de vous dire, vous qui nous écoutez? Il vient de vous dire, vous foutez la merde, en gros. Pardonnez-moi la trivialité du terme.
C'est une réalité quotidienne. C'est une réalité.
Mais c'est vrai, c'est une réalité.
C'est pas tout le monde, ne généralisons pas.
Non, c'est pas tout le monde, mais c'est souvent.
Moi, je connais des usagers de trottinettes qui vont au travail avec et ça se passe. Voilà, c'est des gens qui
sont. Le mec qui passe devant ta voiture et en plus, il se la ramène.
C'est l'absence de civisme qu'on constate, malheureusement. C'est toujours le même problème.
Vous savez quoi? J'aime bien solliciter nos auditeurs. 01 53 48 3000. Je kiffe les solliciter parce que c'est eux la voix aussi des informés.
Demandez-leur s'ils sont cons.
Justement, 01 53 48 3000. Nordine, choisis le roi et il nous appelle. Il est chauffeur de taxi. Nordine, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bienvenue, bonsoir. Mon cher bonsoir. Nordine, on vous écoute sur les trottinettes. Jimmy Dalidou qui fait une provoque.
C'est une catastrophe. Il se croit tout permis.
Vous êtes d'accord avec Jimmy Dalidou?
Bah, tout le monde est d'accord avec toi.
Bien sûr, je suis chauffeur de taxi. Donc je les vois au quotidien.
Ah, d'accord.
Donc, après, il y en a qui respectent. Il y en a qui respectent, d'accord. Mais les 70%, ils ne respectent rien. Et il est bien mentionné comme quoi, dans la réglementation, lors de l'utilisation, ils doivent respecter le feu rouge, la priorité à droite et le passage piéton.
Bah, dans ce cas-là, rien du tout. Comme dit l'abbé Létacage, il faut établir des règles. Il n'y a pas de règles.
Maintenant, avec tous les travaux que nous fait Hidalgo et avec apparemment, avec le nombre de moyens, qui verbalisent les trottinettes, surtout les personnes qui sont à deux, et notamment même ceux qui prennent des enfants, et ça paiera les travaux, et comme Nordine, ça, il y en a vraiment.
Nordine, vous êtes chauffeur de taxi. Vous êtes souvent, régulièrement, de face aux usagers de tes trottinettes, non?
C'est devenu un métier.
Ça, à mon avis, je pense que ça s'insulte, là, non?
Après, c'est possible de répéter la question, j'ai mal saisi, désolé.
Vous vous retrouvez face aux usagers de trottinettes, donc parfois ça s'insulte.
Ah, c'est-à-dire que. Ouais, il y a des insultes, on demande, non mais tu te crois où, tu veux mourir, des enfants de 12-13 ans, ils traversent les passages piétons alors que le feu il est vert pour nous, mais ils sans casque, ils ont rien, le soir total. Après moi j'ai une petite technique quand je suis au boulevard Saint-Germain, je leur klaxonne, appel de phare, et le téléphone ça le dérange, donc ils dégagent sur le côté.
Voilà. Bravo Nordine, merci d'être intervenu.
Je vous en prie, c'est un bilan que je peux pas écouter, j'ai entraînement, vous lui passez un grand bonjour de ma part.
Ça marche.
Il est de la maison.
Merci Nordine. Attends, de Paris, bonsoir, avant de lancer la pub, je vais accueillir Attends. Attends, vous nous écoutez, Attends?
Allô?
Oui, bonsoir Attan.
Oui, bonsoir, moi je voulais juste vous dire un petit truc, bonsoir à tout le monde.
Rapidement, en 10 secondes.
Oui, rapidement. Je suis chauffeur de taxi, j'ai pris le boulevard Saint-Germain et il y a des trottinettes qui vont au sens inverse. Ouais. J'ai failli en plan pour les deux.
Aïe, vous avez vu là la réalité des trottinettes? Voilà. Merci à Tan de Paris. J'accueille Salira du 93. Bonsoir Salira.
Oui, c'est Saleha.
Saleha, excusez-moi. C'est Anthony, c'est pas grave, il s'est habitué au standard. C'est juste l'écoute.
Non, y a pas de soucis.
Dites-nous en 10 secondes.
En 10 secondes. Moi, je suis VTC, je suis tout le temps sur la route. Donc, les trottinettes, c'est un grand problème pour nous. Une fois, j'ai évité une trottinette, une jeune fille qui ne savait même pas la conduire. 5 minutes, même pas, fraction de seconde après, sa copine qui vient derrière aussi.
Ouais, c'est dangereux.
C'est 35 morts cette année. Ouais, 35 morts. Hein.
Merci, Saliha. Merci, Saliha.
Mais, excusez-moi, je voulais faire un point.
Vite, en deux secondes. On doit lancer la pub.
Les vélos, c'est pas les mieux.
Elle a raison.
C'est vrai. Allez, merci Salia, merci. On marque la pause pub. Dès qu'on sollicite le DJ, il vient. Vraiment, c'est aussi vous, les informés. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés, dernière ligne droite avec Jimmy Dalidou, avec Jean-Pierre Colombiès et enfin avec Nabil et Takash. Messieurs, il est 19h21, je voudrais juste un tour de table. Vous avez entendu les auditeurs, les chauffeurs de taxi, les trottinettes, voilà la réalité, messieurs. Elle est là, la réalité.
Le terrain, la vie.
La vie, exactement. Dernier sujet que je voudrais, c'est le jeu Antifa, retiré de la vente à la FNAC. Ça vous fait sourire, Jean-Pierre Colombiès ?
Oui, ben ça fait sourire parce que je me demande comment on peut avoir des idées de ce genre-là. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, très cher Adil, que plus rien ne m'étonne. Donc, allons-y, quoi. Oui, Antifa, donc anti-force de l'ordre.
Les éditeurs du genre, je voulais les retirer. Mais pourquoi ça pose problème ?
Parce qu'on sait très bien quelle est la philosophie qui sous-tend tout ça. Parce que traditionnellement...
Je parle à vous parce que derrière, c'est les syndicats policiers.
Bien évidemment, que je ne suis pas, je le répète quand même.
Oui, j'ai compris.
Indépendante, Adil, on n'appartient pas à un syndicat.
J'ai compris.
Mais je considère que le message est clairement fort, puisque ça représente toute une idéologie qui est d'ailleurs... Enfin, si les gens s'intéressaient un peu au sujet, comprendraient à quel point tout ça est manipulé, mais ça sera... un petit peu, ça se raccroche plutôt aux agissements des Black Blocs pendant les manifestations, mais en oubliant à qui profite le crime. Donc c'est une démarche que je trouve maladroite, si tant est qu'elle soit réellement maladroite. Je pense que c'est volontaire et il y a une volonté de provocation. Là, pour le coup, on parle de lui. On parle de l'éditeur du jeu.
Bah, voilà. L'éditeur du jeu, là, la FNAC, ça déclenche une polémique, tout ça.
Hein. Eux, ils sont vendeurs, ils sont peut-être pas...
Mais ça a déclenché une polémique.
À juste titre.
Nabila et Takash.
On discutait tout à l'heure de la violence dans la société. C'est toutes ces choses, les jeux vidéo extrêmement violents. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse éditer un jeu pareil.
Tiens donc.
Pardon.
Tiens donc.
Quoi donc ?
Et bien vous titrer.
Antifa vous dérange. Ça m'étonne ça. Tiens donc.
Tout ce qui est. Enfin, on va pas inciter à la violence et à voilà, c'est tout ce qui moi c'est ce qui me pose problème et je trouve ça assez.
Quand il après
vous n'êtes pas d'accord.
Après qu'il a répondu.
Attendez, c'est important.
Pourquoi
vous n'êtes pas d'accord ?
D'abord, les Antifa, c'est un jeu, mais qui cristallise une idéologie qui, au départ, les Antifa... Moi, j'ai rien contre les Antifa et j'aime bien les Antifa. Vous savez pourquoi ? Parce que les Antifa, c'est eux qui protègent les manifestants face aux fachos. C'est ça qui se passe. Les Antifa, c'est de là qu'ils viennent. Quand il y a des manifestations et que vous êtes chargé par certains fachos, bah vous avez les Antifa qui sont là pour vous défendre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on boycotte un jeu sous prétexte qu'il y a les drapeaux des Antifa. Bah moi, je demande qu'on boycotte les livres racistes et les pamphlets racistes de l'extrême droite.
Les
livres racistes de M. Zemmour et les autres. Dans ce cas-là, il faut boycotter leurs livres et leurs pamphlets pompeux, farfelus, nauséabonds. Donc je soutiens le fait qu'ils se positionnent d'une manière convenable dans les manifs.
C'est et les pour et les contre.
Une position de classe. Les Antifa, ils ont leur origine, leur cause, leur origine de naissance. Je rappellerai que leur drapeau rouge, il est totalement intégré dans l'histoire de France. Il est né le 17 juillet dans les années 90, lorsque au Champ de Mars, la France révolutionnaire s'est faite massacrer. C'est là qu'est né le drapeau rouge. Donc les Antifa, ils ont leur place.
Nabil et Takash.
Si tu ne m'avais pas interrompu, comme tu aimes le faire souvent, je n'avais pas fini de développer. Donc ouais. Moi, ce que je disais, c'est tout ce qui incite à la violence.
On l'a compris, il l'a dit avec conviction.
J'entends sa position. Tout ce qui incite à la violence est insupportable et donc c'est ça qui contribue à l'éducation.
Sauf la violence de la Macronie, apparemment, ça vous dérange
d'accord,
pas.
D'accord, c'est vrai. On est déjà.
Oh
la violence sociale. La violence sociale, c'est une violence aussi.
Oui, mais toi, tu te revendiques tu te revendiques idéologiquement de pays qui ont instauré les systèmes les plus violents. Donc voilà, ensuite on peut rediscuter.
Personne n'a compris ce que vous venez de dire.
Personne n'a compris ce que t'as dit.
Bah non, mais l'idéologie.
Là, tu fais ta magie.
Il est fou, ce Jimmy Dalidou.
Tu fais ta magie.
Tu es très idéologie anticapitaliste, etc., etc.
Anticapitaliste et anti-impérialiste.
Voilà.
Donc ça, on l'a compris depuis que vous êtes sur dans les informés sur BFM. Quel auditeur n'a pas compris que vous ne l'êtes pas, Jimmy Dalidou,
voilà.
Hein.
À part l'Union soviétique, la Russie, enfin, voilà.
Non, mais
la Chine,
ça vous dérange pas que des livres ainsi soient publiés et vendus?
Non, non. Et voilà. Donc, si j'avais pu terminer.
Et là, tout le monde charge un jeu. Non, mais
laissez-le finir. Laissez-le finir.
Sur l'interdiction, j'avoue ne pas avoir de position là-dessus. Parce que, voilà, il faut laisser aussi la possibilité aux gens de se faire une idée par eux-mêmes. Voilà. Après, maintenant, ce que je disais, c'est tout ce qui incite à la décrédibilisation des forces publiques ou de l'État ou de la police. Je trouve ça assez insupportable.
Alors, enfin, Jean-Pierre. Ouais.
C'est vrai que le duel est assez. Il y a quelque chose comme c'est ça. C'est ça des poivrés. Moi, j'ai presque envie de dire que je suis d'accord et pas d'accord en même temps avec mes deux précédents interlocuteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, je comprends la philosophie que défend Jimmy, hein, il le sait. Pour avoir écrit sur la Commune de Paris, je comprends parfaitement ce qu'il veut évoquer. Mais je pense sincèrement que la dynamique aujourd'hui de certains antifas, et notamment des Black Blocs, en fait, sert les intérêts du pouvoir en place.
Oui.
Pourquoi? Que je l'ai défendu sur ce plateau plusieurs fois en disant que la réaction, les ordres donnés à une certaine époque par Didier Lallemand, étaient en fait des ordres qui ont été donnés pour faire mal et pour créer des incidents. Et on s'en est rendu compte. Mais moi, j'ai assisté à des manifestations. Je ne sais pas qu'en parler pour en avoir entendu parler. J'y ai assisté. J'ai vu comment ça se passait. Et j'ai discuté avec des gens qui se revendiquaient d'être des Black Blocs, qui m'expliquaient le plus naturellement du monde ce qu'ils allaient faire pour provoquer la réaction des CRS, parce que tout ça a été orchestré, tout ça a été théâtralisé.
Ah, clochette.
Non, mais c'est une réalité.
Théâtralisé, scénarisé.
On sait très bien. On sait très bien.
Qu'on est où là?
On sait très bien que. Et là, je suis désolé.
Que certaines organisations syndicales de la police s'orientent un petit peu trop vers l'extrême droite.
Est-ce que j'ai dit le contraire?
Oui.
Bon, d'accord. Merci. D'accord. Non, je l'ai pas dit. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit?
Très bien,
merci. Par contre, ce que j'ai dit, ce que j'ai dénoncé, je suis désolé de le dire, c'est que avec la bénédiction d'Emmanuel Macron premier, Didier Lallemand a mis en place des stratégies de maintien de l'ordre. Oui, bah oui, on en est aux deux là.
Le banquier
de maintien de l'ordre, il a mis en place une stratégie de maintien de l'ordre qui est totalement à la fois une contre-productive et de deux, je le persiste et je signe, illégale. Et Didier Lallemand en répondra. Il ne faut jamais perdre de vue que les Black Blocs servent aussi ces intérêts-là.
Merci messieurs. Time Sport spécial Coupe du Monde direction avec Bilal Nenman. Bonsoir Bilal Nenman.
Bonsoir Adil et
comment
bonsoir à toute l'équipe des informés.
Quel
ça
week-end,
va bien. Quel week-end, mais là il était bien le débat là.
Ah bah excellent. Hein
non vraiment.
Alors,
il était
week-end,
très bien.
Ce week-end entre le Maroc, la Belgique,
le Maroc qui frappe fort. Adil.
L'équipe de France. Oh là là.
C'est vrai, c'est vrai. Le Maroc, on va parler du Maroc. Eh oui, le Maroc c'est fort face au Diable Rouge, justement à la sélection belge. Ça a fait un gros match, les Marocains. Bravo à eux. Le football africain.
Sur TF1.
Ouais.
Plus
bien
de 4 millions.
Et bien sûr, les nations africaines font du bien aussi.
Hein?
Et des incidents à Bruxelles. On va pas en dire.
Première équipe africaine à battre la Belgique.
C'est vrai. En phase finale de Coupe du Monde.
Big
on
up,
parlera aussi du Brésil, prétendant, pourquoi pas, au fameux sacre en Coupe du Monde au Qatar. Et on aura aussi un mot concernant le Cameroun et sans oublier le Ghana cet après-midi. Voilà quoi, de quoi on va parler ce soir.
Riche programme.
Oui, et aussi avec l'Espagne-Allemagne d'hier soir.
Exactement. Carton d'audience aussi.
Oui.
C'est tout de suite, c'est maintenant à 19h30. Donc ne manquez pas, Time Sport spécial Coupe du Monde direction le Qatar avec Bilou, Bilal Nenman. Merci à Jean-Pierre Colombiès.
Oui, d'info c'est Jérôme, mais bon.
Il est beau. Merci Jimmy Dalidou.
Merci.
Merci Nabil Aït Akash.
Merci
à la réalisation, à Anthony et aux nombreux auditeurs. On peut les remercier.
On les salue.
À demain avec autant de plaisir, mais surtout...
On ne lâche rien.
À demain. Et Bilou, c'est tout de suite, c'est maintenant.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.